À quoi ça sert d'être connecté à la Terre entière si on n'a rien à se dire ? Georges Wolinski, né le 28 juin 1934 à Tunis, décédé le 7 janvier 2015 lors des attentats de Paris. Il était dessinateur de presse, auteur de bandes dessinées, journaliste et acteur français. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés pour l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 6 octobre 2022. Bienvenue sur Radio Valois-Mulcien dans l'émission Pédago-Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Bonjour, chers chroniqueurs.
Bonjour. Bonjour.
Pour cela, nous recevons Madame Constant Marie-France, membre du Bureau fédéral des délégués départementaux de l'Éducation nationale de l'Oise, c'est-à-dire la DDEN, également présidente de l'Union des DDEN de l'Oise, ainsi que Madame Petit-Jean-Véronique, parent délégué PEPS, P2EP de l'Oise, parent d'élèves de l'enseignement public, et Madame Été-Mamie Stéphanie PEPS. Avant de commencer cette émission, je vais vous raconter le rêve que j'ai fait cette nuit. J'étais en train de manger à table quand tout à coup, ma fourchette m'a dit « Tu manges mal, tu devrais faire attention ». Surpris, j'ai pris mon verre qui m'a dit « Bois pas trop, sois solide ». Alors je me suis levé, je ne savais plus où j'étais, ma ceinture m'a dit « Un petit régime te ferait du bien ». Je me suis dit « Ça y est, c'est encore Sylvie qui nous a concocté un thème du jour, a pu savoir quoi faire ». Le thème du jour, que penser des objets connectés ? Avant de commencer ce thème, nous allons demander à nos chroniqueurs de se présenter.
Qui commence ?
Bonjour, Véronique Petit-Jean, donc présidente de l'association PEP de l'Oise, membre également du bureau PEP au lycée Félix Faure de Beauvais.
Voilà, moi je suis Stéphanie. Voilà, moi je suis membre pareil de l'association départementale de l'Oise. Je suis également trésorière du collège de La Chapelle en Serval. Et je suis aussi responsable du bureau du livre du lycée Jean Rostand à Chantilly.
Et qu'est-ce qui vous a poussé toutes les deux à rejoindre la PEP ?
Ben, moi, pour ma part, j'ai un parcours de parents d'élèves, je pense, assez généraliste, c'est-à-dire que je me suis investie en tant que parent d'élève dès l'entrée en maternelle de mon aîné, qui a 20 ans maintenant, donc je vous laisse calculer. Après, j'ai été parent d'élèves au primaire, et puis, naturellement, je ne connaissais pas les associations de parents d'élèves au niveau fédéral, et je les ai rencontrées au niveau du collège, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir au niveau de la PEP, au niveau du collège, puis en lycée.
Et quel est le rôle de la PEP ?
Le rôle de la PEP, bien, c'est d'aider et de soutenir les familles dans leur chemin d'action au sein de l'école.
D'accord. Stéphanie, tu voulais rajouter quelque chose ? Toi, qu'est-ce qui t'a poussé réellement à rejoindre la PEP ?
C'était pour pouvoir partager plus avant le parcours de mes enfants au lycée et au collège. C'est vrai qu'on a un rôle de, on a plus un rôle de regard et de participer à l'intérieur du collège et du lycée. Ça nous permet aussi d'avoir un œil plus averti sur ce qui s'y passe aussi. Voilà.
Merci. À ton tour, Marie-France.
Bonjour à tous. Je suis donc déléguée départementale de l'Éducation nationale. Je suis présidente au niveau départemental et je suis membre du bureau fédéral au niveau national. Qu'est-ce qu'un DDEN ? Un DDEN, c'est un médiateur, c'est un partenaire de l'école. Le DDEN participe, il est membre de droit du conseil d'école, c'est peut être une personne ressource pour l'école. C'est un médiateur entre les enseignants, les parents, les élus locaux, l'administration départementale. Disons que nous ne sommes pas suffisamment nombreux dans le département de l'Oise. On voudrait, notre objectif, ça serait un DDEN par école et on en est loin. Personnellement, je suis, en tant que DDEN, je participe au conseil d'école de 7 écoles dans la circonscription de Crépy-en-Valois. Ce qui fait qu'on a des moments dans chaque trimestre qui sont très chargés parce que les conseils d'école ont lieu pratiquement tous à la même époque. Mais disons que c'est un rôle qui me plaît beaucoup dans la mesure où j'étais moi-même enseignante dans le second degré. J'étais parent d'élèves également, effectivement. Mais à titre professionnel, j'étais enseignante dans le second degré. Et je suis fortement impressionnée lorsque je vois le travail que font mes anciens collègues, mes collègues du premier degré, parce que quand on est dans le second degré, dans le collège et lycée, on ne se rend pas vraiment compte de l'investissement, de l'implication des enseignants du premier degré. Et franchement, je tiens à leur rendre un hommage très fort, parce que elles ont, les enseignants, souvent des enseignantes, mais d'une façon plus générale, les enseignants ont connu des moments très difficiles avec la crise sanitaire. Et depuis que la crise sanitaire est presque terminée, le retour à la normale, je ne sais pas s'il y a vraiment un retour à la normale, parce que le Covid redémarre, mais ça c'est une autre chose. Je pense que c'est très difficile pour eux, parce qu'il y a eu des... À un moment donné, avec la crise sanitaire, les parents se sont rendus compte de la difficulté d'être enseignants, parce qu'ils avaient les enfants à la maison et ce n'était pas aussi évident que ça. Mais depuis la crise sanitaire, même avec le retour à la normale que nous avons souhaité en tant que DDEN, eh bien, ce n'est pas évident du tout la gestion des écoles, la gestion de la classe. Il y a eu des mauvaises habitudes de prise et ce n'est pas très favorable pour les enfants. Parce que le souci principal d'un DDEN, c'est le bien-être des enfants à l'école et autour de l'école.
On le dit souvent, hein, nous, avec Jackie, on va souvent dans les classes primaires ou maternelles. Et c'est vrai, on le dit toujours, hein, et que c'est vraiment un investissement des enseignants. C'est vraiment ce qu'on répète sans arrêt. Les parents se rendent effectivement pas forcément compte. Par contre, pour être délégué départemental, comme ça, de l'éducation nationale, faut-il faire partie de l'éducation nationale auparavant? Parce que c'est souvent des gens qui sont retraités.
Alors, c'était souvent des retraités de l'éducation nationale, du temps où dans l'éducation nationale, les enseignants, les instits, comme on disait, prenaient leur retraite à 55 ans. Maintenant, les instits sont devenus des professeurs des écoles. Ils sont à la retraite à 62 ans.
Si 62, peut-être si, bientôt 65.
Si tout va bien. Et franchement, quand je les contacte, les retraités, ils me disent « Écoute, Marie-France, on a donné, on ne veut plus. » Ceci dit, on peut être DDEN si on est professeur de lycée-collège. Moi, je suis devenue DDEN alors que j'étais encore en activité, parce que j'étais dans le second degré, justement. Un DDEN ne peut pas... Un enseignant ne peut pas devenir DDEN s'il est encore enseignant du primaire ou de l'élémentaire. Mais n'importe qui peut devenir DDEN s'il a envie de s'investir pour l'école publique et laïque. Et il peut faire remplir un dossier, une fiche de candidature qui sera validée par l'inspecteur de circonscription et ensuite validée au niveau de la préfecture et de l'inspection et de la direction académique.
D'accord. Et quels sont vos liens en tant que DDEN avec l'inspection académique, justement ?
Oh ben, disons que nous sommes reçus très très régulièrement, à chaque fois qu'on le demande. On peut rencontrer l'inspectrice d'académie, Madame Compagnon actuellement, qui va bientôt prendre sa retraite. Mais disons que je suis en lien avec les IUN de la circonscription de Crépy, avec Madame Mascara. Je vois aussi de temps en temps Monsieur Legrand sur Senlis, Monsieur Bultel sur Gouvieux. Enfin, disons que je rencontre très facilement les IUN qui aiment travailler avec nous parce que souvent... Eh bien, ils ont saisi notre fonction de médiateur et ils nous envoient souvent là où il y a des difficultés. Lorsqu'il faut mettre un petit peu d'huile dans les rouages, ils nous envoient dans les écoles.
Et vous avez déjà travaillé ensemble, les DDEN et la PEP ?
Non.
Jamais. Non. D'accord.
Eh bien, passons à notre thème du jour. Que penser des objets connectés ? Sylvie, peux-tu nous présenter ce thème ?
Alors, ces objets connectés sont ancrés dans notre vie. dans celle de nos enfants. Devons-nous nous en soucier ou bien laisser faire le progrès ? Il n'est nullement question de remettre en cause les objets connectés qui peuvent être un atout dans notre quotidien. Maison connectée avec les volets roulants, thermostats connectés, caméras de surveillance, assistants vocaux. On en a besoin aussi en industrie par les robots. En agriculture, il y a des colliers connectés pour les animaux, l'arrosage intelligent. En santé, nous avons les tensiomètres connectés, etc. Mais il y a aussi, alors ça je vais essayer de bien le dire, les wearables, c'est-à-dire des objets que nous pouvons porter directement sur nous, comme des montres ou des vêtements connectés. Ainsi, nous aurons des informations sur notre santé, nos activités sportives. Alors effectivement, je ne sais pas si vous avez entendu sur BFM, ça a fait un peu le buzz cet été, on avait la problématique d'un bracelet connecté qui était distribué à des collégiens pour mesurer leur activité sportive. Et donc BFM avait fait un petit reportage là-dessus. Il n'y avait pas eu de problème au départ au niveau de ce reportage. Et puis par la suite, les parents ont commencé à se poser des questions. Un bracelet connecté, est-ce qu'on va surveiller nos enfants à la méthode chinoise ? Et donc vu, il y a même eu un petit peu des manifestations. Et donc ce qu'il s'est passé, c'est que le conseil régional et départemental de la Sarthe ont décidé de ne pas donner ce bracelet connecté aux 30 000 collégiens et donc de toute la Sarthe, parce qu'au départ, c'était vraiment une expérimentation. Alors effectivement, les enfants étaient très, très contents de recevoir un petit bracelet connecté. Chouette, c'est super, nous voilà connectés. Les parents n'en ont pas dit autant. J'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, au niveau de la PEP, parce que vous représentez quand même les parents d'élèves, si on avait dit dans l'Oise, ce collège, on va prendre une centaine de collégiens, et puis on va leur mettre un bracelet connecté pour surveiller s'ils font du sport, combien de pas ils font dans la journée, sachant qu'effectivement, déjà au collège, je crois qu'ils ont 1h30 de sport ou d'éducation physique ou 2h par semaine. Ah, ils ont 3h. Je suis plus du tout au courant. Voilà. Donc, parce que effectivement, lorsque j'ai appelé la PEP Paris, j'aurais posé la question. Ils m'ont dit, écoutez, nous, les médias, ne nous ont pas interrogés sur ce sujet-là. Donc, j'aimerais un peu avoir votre impression là-dessus.
En l'occurrence, si on aurait été on aurait aimé déjà être consulté en amont d'un tel investissement parce que aujourd'hui, avec le même billet de 100 euros, il faut bien décider ce qu'on veut faire. Et en l'occurrence, vous aviez bien dit le terme, surveiller les enfants. Et ça nous pose effectivement un problème éthique, déontologique. On a vu quand même qu'avec la crise sanitaire, le fait de mettre juste les enfants devant des écrans pour suivre des cours, c'est pas forcément la bonne manière. Les enfants et les adolescents ont besoin d'un contact pour développer une pédagogie adaptée. Et au niveau sportif, les adolescents, beaucoup d'études en neurosciences montrent que c'est le moment où il faut leur apprendre à prendre conscience de leur corps pour éviter de se mettre en danger inutilement, etc. Donc, pour notre part, ce même billet de 100 euros, je pense qu'il serait plus utile, plutôt que le mettre dans un bracelet connecté, il serait peut-être mieux de le mettre soit dans un apprentissage de cours de yoga ou de prise de conscience en soi. Enfin voilà, prendre un intervenant extérieur au moment de l'éducation sportive pour aider à ce développement, au développement de ce genre de pratique. Moi, je sais que personnellement, je suis redevable de ma professeure de sport de terminale qui nous a appris à respirer en pleine conscience par le ventre, et cette manière, ça m'a énormément aidée personnellement au moment de passer le bac. Et je pense qu'aujourd'hui, les enfants, alors ils sont connectés, ils sont devant les écrans, et quelque part, ils sont complètement déconnectés de leur corps.
et que au niveau de l'éducation sportive, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de développer la conscience de son corps, de le connaître, voilà.
Alors la problématique, c'est que les parents avaient peur effectivement à la surveillance, mais en réalité, ces bracelets connectés ne sont ni dotés de GPS, ni reliés à Internet et ne permettent donc aucune collecte des directs de données, en fin de compte. Alors c'est pour ça que les parents sont restés très, très perplexes là-dessus.
Oui. Et on les comprend parce que là, on voit bien, par exemple, que quand on nous a vendu... c'est tout autre chose, mais le compteur Linky, on nous avait dit il n'y a pas de récolte de données, et au final, on est sur le point de dire aux gens, bah, là vous consommez trop, donc on vous coupe en alimentation électrique.
Alors je voulais continuer. Donc là, c'est Anthony Trifot, hein, vice-président du conseil départemental, qui en a parlé à un journal. Et il disait donc que ce sont de simples trackers d'activité, comme on en trouve dans tous les magasins de sport. Dotés d'un podomètre et d'un fréquence cardiomètre, ils mesurent la température, le temps de sommeil et se connectent par Bluetooth à un téléphone portable. En fait, l'usage quotidien de ces montres et le projet de collecte de données sont deux sujets distincts. Il n'y avait que seul le professeur de PS qui pouvait recueillir les données. Moi, ce qui m'a un petit peu alertée en réalité, c'est qu'il mesure la température, le temps de sommeil. Donc ça, je me dis, ça rentre peut-être pas tout à fait dans le cadre de l'éducation physique. Moi, j'aimerais avoir... qu'est-ce que tu en penses, toi, Marie-France, de ce bracelet connecté?
Ce bracelet connecté, je suis comme mes collègues de la PEP. On n'a pas du tout été contactés, consultés sur cette question. Et je dois dire que lorsque tu m'as contacté pour cette émission... Je me suis posé des questions et je me suis penchée sur la question des objets connectés parce que c'est vrai qu'avec l'âge, il y a des choses qui nous échappent, mais j'avais jamais été confrontée à ce genre de questions. Mais disons qu'il faut essayer de rester terre à terre. On est dans un monde qui bouge complètement. Moi, les bracelets connectés, pour moi, ce sont des gadgets et j'en vois pas spécialement l'utilité. Et je me dis que ce sont des gadgets qui peuvent être utiles, mais qui peuvent être aussi très dangereux parce qu'il y a une immixtion quand même dans la vie personnelle des uns et des autres. Et je ne pense pas que ça soit poussé à l'extrême, parce que si on a quand même des apprentis sorciers dans le monde d'aujourd'hui, ça peut être extrêmement dangereux. Ça peut être extrêmement dangereux. Alors, les bracelets connectés, par exemple, je sais que pendant un temps, il y a une expérience de bracelet connecté pour les gamins qui prenaient le bus scolaire.
Oui,
et ça pouvait rassurer, effectivement les parents qui prennent des enfants. Il y a des enfants très jeunes qui prennent le bus scolaire. Avec ces bracelets connectés, les parents pouvaient savoir si le gamin était bien dans le bus, s'il n'était pas perdu, etc., etc. Ça, c'est un côté positif. Je ne sais pas du tout quel a été le bilan, parce qu'on lance des expériences comme ça. Des expériences qui doivent coûter quand même cher. Et on ne sait pas trop du tout. Il n'y a jamais de bilan de fait, vraiment, ou de bilan connu.
On y reviendra après sur les bracelets au niveau du bus. Moi, je voulais revenir effectivement sur le professeur DPS qui récupère donc les données. Mais il va quand même les transmettre. C'est ça qui est intéressant, à la filière STAPS de l'Université du Mans, où un doctorant se chargerait de les mettre en forme. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucune convention qui n'a été signée pour l'instant avec l'université. Par contre, du côté de l'éducation nationale, le rectorat de Nantes estime ne pas avoir à donner un avis sur une affaire qui concerne le niveau départemental. Donc ça m'a un petit peu surpris. Hein. J'ai trouvé ça sur les archives Ouest-France. Je me dis, c'est quelque chose quand même qui se passe à l'intérieur donc, du collège. Je pense quand même que le rectorat aurait pu donner un avis ou favorable ou défavorable. Et là, il s'abstient tout commentaire.
Et en l'occurrence, moi j'ai une question, mais est-ce que les familles ont été, on leur a demandé, au même titre que chaque année, on leur demande une autorisation de diffusion de l'image des enfants, Là, a fortiori, pour ce genre de données de santé, parce que là, on parle bien de données de santé, est-ce que les parents, on leur a demandé une autorisation pour cela ?
Aucune concertation, ni avec la PEP, ni avec la FCPE, ni avec les parents. Et donc, moi, la question que je me posais, pour un mineur, les parents auraient dû faire peut-être un courrier écrit ou signer quelque chose. Là, il n'y a rien eu. Je pense que c'est cette colère qui a monté.
C'est une expérience un peu sauvage, parce que je pense que, effectivement, si le recteur de Nantes a dit que ça concernait le département, je pense quand même que cette expérience qui a dû être financée par quand même un organisme, est-ce que ça aurait dû passer en conseil d'administration dans les établissements scolaires ? Et si le recteur n'était pas au courant, c'est que c'est pas passé en conseil d'administration. Donc, pour moi, c'est une expérience très locale. Et
en dehors de tout protocole sanitaire.
Mais c'est vraiment le conseil départemental de la Sarthe. Voilà.
Oui, alors c'est vrai que le conseil départemental, c'est lui qui investit, qui donne des financements pour les collèges. Mais il n'empêche quand même que peut-être il y avait autre chose à dépenser, à acheter autre chose que de ce genre de gadget.
Et puis, en l'occurrence, si ces données étaient transmises donc à une université, c'était dans quel objectif ? Quel est le sujet d'étude ?
Oui.
Le sujet d'étude, c'était pour voir un petit peu, voir s'ils faisaient du sport, parce qu'ils avaient trouvé au niveau du conseil départemental qu'après le confinement, les enfants, comme tu le disais tout à l'heure, Véronique, ils étaient souvent sur leurs jeux vidéo ou assis devant la télé. Ils ont remarqué que la santé des jeunes n'était pas terrible suite au confinement. Donc, ils se sont inquiétés de ça. Mais bon, en général, ce sont les parents quand même qui s'inquiètent un peu plus de la santé. On est en train de se demander justement jusqu'où ça va aller peut-être. Est-ce que les parents ont encore leur mot à dire sur la santé de leurs enfants ? Voilà, c'était vraiment dans ce but-là, pour vérifier si les enfants faisaient bien des exercices, en dehors même peut-être de l'école, voir s'ils marchaient beaucoup, etc. C'était vraiment dans ce sens-là. Mais moi, en recherchant un petit peu, effectivement, il y avait aussi peut-être des données sur le mental. Au départ, c'était vraiment sur le physique de l'enfant, mais peut-être sur le mental et peut-être au niveau social aussi. Donc, c'est pour ça que les parents se sont posés beaucoup de questions. Comment allait être mise en place et qu'est-ce qu'on allait faire de toutes ces données ? Voilà.
Alors peut-être que l'idée de départ était peut-être intéressante. Bien sûr, on est tous concernés par le manque d'activité de nos enfants pendant le confinement. Et Dieu sait que j'avais un adolescent qui est resté presque un an et demi dans sa chambre. Donc forcément, mais il y avait peut-être d'autres outils et pas seulement leur donner une montre. C'est un peu facile, c'est comme donner une tablette à un enfant de 3 ans. Tiens, allez, prends ça. Et on a l'impression qu'on s'est déchargé du problème, on a réglé le problème. Mais non, ce sont des jeunes. Je doute qu'un enfant qui est en 6e, honnêtement, puisse avoir une idée de combien il doit marcher. Ça peut aussi créer des troubles chez l'enfant. Ah, j'ai pas marché mon quota aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver ? Ça peut avoir aussi un effet, l'effet peut-être contraire. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Tout à fait.
Il aurait peut-être fallu, je ne sais pas, peut-être ne serait-ce qu'acheter une paire de baskets. Peut-être c'était peut-être plus simple aussi pour certains d'avoir une paire de baskets qu'avoir une montre. Voilà.
Et on trouve que les élèves ont porté leur bracelet.
Alors, justement.
Sans arrêt, hein.
Alors, juste, oui, voilà. Au niveau de BFM, quand on voit la vidéo, les élèves interrogés par BFM l'assurent, le bracelet va les motiver à augmenter leur activité physique. Et le fait de porter ce bracelet, comme ils vont se sentir surveillés peut-être ou pas, il y avait une jeune collégienne, qui était là, qui disait, ah oui, mais moi, je vais m'entraîner, ça va m'aider à m'entraîner un peu plus. Alors, il faut savoir que dès septembre, les parents ont manifesté, etc. Donc, le conseil départemental, je rassure quelques parents, le projet a été abandonné, mais pas tout à fait. Ils verront s'ils peuvent le faire sous une autre forme. Donc, ce n'est pas vraiment, vraiment abandonné. On verra bien ce qui se passe.
Parce que moi, je vois très bien, côtoyant pas mal de collégiens, de temps en temps, s'échanger un bracelet pour faire plaisir. Tiens, tu cours pas mal. Tiens, je vais te filer mon bracelet, tu prends le mien. Et puis, on va arriver à des choses qui n'auront plus aucun sens.
Oui, puis si on raisonne d'un point de vue global, je pense qu'au niveau du département, aujourd'hui, et des conseils régionaux,
les dépenses, il faut les penser au niveau global. C'est-à-dire qu'un objet connecté, c'est combien de terres rares collectées. Il y a aussi un impact environnemental qu'il faut aussi prendre en compte. Une paire de baskets, l'impact environnemental d'une paire de baskets, c'est quand même pas la même chose qu'un bracelet connecté en termes d'investissement. Par ailleurs, si on veut vraiment s'attacher à la santé des enfants, aujourd'hui, on a un gros problème concernant la mesure de CO2 dans les classes. Et aujourd'hui, il y a énormément d'études qui sont faites pour pousser les établissements à investir juste dans des boîtiers de mesure de CO2, parce que la qualité de l'air dans les salles de classe est absolument médiocre. Que ça a des impacts sur l'attention, sur les apprentissages, sur la prise de parole à l'oral des enfants, et que sur 8 heures de cours, le sport est important, mais sur une semaine de cours au collège, le sport c'est 3 heures. Le reste du temps, ils sont en classe fermée et où la qualité de l'air est pour le moins médiocre. Donc aujourd'hui, avec la recrudescence, comme disait Madame Contant, du Covid, il faut absolument que chaque établissement et chaque classe est un capteur pour mesurer, et que de manière à ce que les professeurs et les enseignants puissent agir sur la qualité de l'air de leur classe.
Oui, là, ça serait vraiment un sujet intéressant au niveau de la santé des enfants.
Voilà.
Tu voulais intervenir,
Marie-France. Je voudrais rajouter, non seulement ces capteurs me semblent être une nécessité, donc ça va être un investissement au niveau des collèges, des conseils départementaux, au niveau des écoles, des municipalités. Moi, je pense que, puisqu'on est soucieux de savoir combien de pas font les gamins dans la journée, combien d'heures de sommeil, parallèlement, un des gros problèmes de l'éducation nationale, c'est l'absence ou la quasi-absence de médecine scolaire. Et là franchement, il y a un gros souci, et c'est un problème aussi d'investissement et de choix. Et là, je pense que plutôt que de choisir des objets connectés, il y a un choix humain qui concerne l'ensemble des enfants. Et il y a trop d'enfants qui passent leur scolarité sans avoir vu un médecin scolaire.
Tout à fait.
Et ça, c'est grave.
Effectivement. Mais peut-être que les objets connectés, ça revient peut-être moins cher que de prendre des infirmières. Il y a peut-être ça aussi. Parce que bon, on voit bien que les infirmières, on n'en trouve pratiquement plus dans le milieu scolaire. Il en reste combien dans le département? Il y en a très peu.
C'est-à-dire, vu le prix, vu le salaire qu'on leur offre, une infirmière qui est diplômée, va préférer travailler ailleurs que de travailler dans l'éducation nationale. Parce que, à part les vacances, entre guillemets, c'est pas...
Il faut peut-être aussi réfléchir à leur mission, à des missions, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, que ce soit des enfants, de la petite enfance, de maternelle jusqu'au lycée, les problématiques sont complètement différentes. Et pour autant, les enfants ont besoin d'être écoutés, d'être entendus. Les infirmières scolaires sont effectivement nécessaires.
Moi, je voulais vous poser une autre question. En fin de compte, le fait de remettre ces bracelets connectés à de jeunes enfants, hein, puisqu'ils ont à peu près 11 ans, là, pour ce cas de la Sarthe, n'est-il pas une manière d'habituer les enfants à se mouvoir partout en étant connectés, donc plus ou moins surveillés, sans s'en rendre compte? Parce que si on leur met des bracelets connectés dès l'âge de 11 ans, pour eux, ça va devenir tout à fait très, très normal.
Moi, je pense que les enfants sont de même avec l'ambiance, la mode actuelle de la connexion, parce qu'ils n'attendent pas l'école pour se connecter, les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont connectés, bien malgré nous. Vous prenez un téléphone portable, les gamins, ils sont connectés, et un gamin de 2 ou 3 ans, il va essayer déjà de bidouiller sur le téléphone portable des parents. Et je l'ai vécu, j'ai pu le constater avec mes petits-enfants, ils sont beaucoup plus doués que nous dans ce domaine. Donc la connexion, les enfants connaissent. Alors pourquoi les inciter encore plus d'une façon officielle? Là, ça se fait au niveau de l'école. C'est quand même, on leur donne, même s'ils n'en avaient pas eu l'intention de se connecter, on leur donne cette habitude.
Oui, alors qu'à l'école, on a, en 2018, je crois, on a interdit le téléphone portable dans les écoles. Et c'est connecté. Donc, bon, il y a quelques exceptions, hein, quand il y a des enfants qui ont un handicap ou autre et qui ont besoin de leur téléphone. Donc, on interdit quelque part le téléphone portable, mais on met en place des objets connectés.
Oui, puis il faut garder de la cohérence. On ne peut pas d'un côté dire ben, vous êtes trop connectés et de l'autre côté leur donner des objets qui vont encore les accrocher davantage. Mmh. Il faut que les enfants se connectent à eux-mêmes déjà. Oui. Et puis après, on verra. Je rappelle quand même que la Fédération des sages-femmes s'inquiète énormément parce que les mamans aujourd'hui sont beaucoup sur leur téléphone portable et n'ont plus de lien, rien que par le regard, avec leur bébé. Mmh. Ce qui pose des gros problèmes au niveau de l'attachement mère-enfant et avec tout ce que ça induit derrière. Et on aura donc, malheureusement, je le crains, besoin de beaucoup d'infirmières dans le futur.
Mais au niveau scolaire. Voilà, au niveau santé, on peut parler aussi des ondes hein, avec le téléphone aussi. Portable. Voilà. Aussi. Mais ça, c'est encore une autre... voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut mettre la vidéo, le son, si tu l'as, Luc? Bon, ben, c'est bon, c'est parti.
Un comptage instantané des élèves, les chauffeurs de car en ont rêvé, la start-up Groupir l'a fait. Bien sûr, quand il s'agit d'enfants de maternelle, comme ici avec l'école test d'Auzouer, Pauline, l'accompagnatrice, est là pour confirmer le compte et le décompte. L'application fonctionne avec le système Bluetooth d'un téléphone portable et un bracelet. Pour nous faire plaisir, les élèves l'ont sorti, mais normalement, il est bien calé au fond du sac.
Au fur et à mesure que les enfants vont monter, ça va les compter. Et après... On part de l'école, on va au premier arrêt, on appuie sur suivant, qui a su le téléphone, et là ça décompte au bout d'un petit moment, parce qu'il faut une certaine distance avec les bracelets, et là ça déconnecte, et hop, ça nous enlève les élèves qui sont descendus.
L'objectif, c'est de savoir combien d'enfants sont dans le car, à quel arrêt ils sortent, aussi pour mieux calibrer la jauge des transports scolaires. Et puis si au terminus il reste un élève, c'est qu'il s'est endormi, alors on peut appeler ses parents pour les rassurer.
Ça sert à avoir une information précise sur quel usage ont nos enfants de transport en commun. Donc ça c'est utile pour l'entreprise. Ça sert aux parents pour être rassurés, pour savoir où se trouve son enfant, si on ne l'a pas oublié dans le car, s'il ne s'est pas endormi tout simplement dans le car, et s'il est bien descendu à l'arrêt qui était prévu.
L'Indre-et-Loire est département pilote du comptage scolaire instantané avec les écoles d'Auzouer en Touraine et Vouvray. Si l'application de l'application est concluante, elle pourrait intégrer le réseau régional de transport scolaire à la rentrée 2018.
Alors ça, c'est un reportage qui date de mai 2017, donc dans l'Indre-et-Loire. Alors effectivement, il y a eu la même chose faite donc... à Saint-Rémy, en Lot et à Valescourt. Donc, c'était un dispositif expérimental en janvier 2018, effectivement baptisé Carascol, unique dans les Hauts-de-France. Alors, vous pensez bien que j'ai essayé d'avoir le conseiller régional dans les Hauts-de-France. Je suis tombée sur une personne très aimable. Elle n'était pas au courant de cette expérimentation. Donc, je lui ai dit, ça serait bien qu'on ait quand même un bilan, savoir si ça se fait toujours, parce que moi, j'en avais jamais entendu parler. Elle devait me rappeler pour me donner un petit peu des explications, parce que ça se passe dans l'Oise. Moi, j'aurais bien voulu en savoir un peu plus. Et il a fallu que je la rappelle hier matin, parce qu'elle avait oublié de me rappeler, mais c'est pas grave. Et donc, elle m'a dit, ben, excusez-moi, mais je n'ai pas eu de retour. Donc, point d'interrogation. Donc, j'appelle non seulement les auditeurs et auditrices. Si vous avez quelques éléments là-dessus, je pense que ça a dû être une expérimentation parce que c'était en 2018. Il y a eu à peu près la même expérimentation, toujours en janvier 2018, à l'Est-Neuvaine, Côte des Légendes, donc du côté de la Bretagne. Et donc, pareil, c'était un bracelet géocalisé pour le comptage des enfants. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit non, mais on devient fou dans, sur cette planète, parce que en fin de compte, nous, à notre époque, il y avait des personnes qui étaient là, qui comptaient les enfants, qui les appelaient par les prénoms, ce qui était chouette. Je pense pas que le bracelet connecté, quand il bipe, il les appelle par les prénoms. Donc voilà, donc ça rassure peut-être les parents, mais l'humain, on en a de moins en moins. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, il me semble bien qu'il n'y a pas longtemps, à la télévision, ils ont parlé d'une petite fille qui est restée 3 heures dans un car, sans que le conducteur du car ait fait le tour du car pour savoir s'il restait un élève dans le car.
Oui, mais en général, quand ils sont en maternelle, excuse-moi, Jackie, mais il y a toujours une personne, une ATSEM, qui les accompagne.
Mais peu importe que ce soit une personne qui les accompagne, au moins qu'une personne fasse le tour du car à la fin pour savoir s'il n'y a pas un enfant qui est dedans. On n'a pas besoin d'un bracelet pour ça, quand même.
Exactement.
Tout à fait, tu vois, c'est ça qui est stupide.
Tout ça, ça dépend aussi des réductions d'effectifs, c'est tout. C'est, tous ces bracelets et tous ces objets connectés sont là pour justement avoir des réductions d'effectifs.
Tout à fait.
Et pour combler, puisqu'on le voit en ce moment, dans les transports scolaires et autres, où on a un manque de chauffeurs, donc ça, c'est pour combler aussi le manque de chauffeurs. Comme ça, le chauffeur n'aura pas à avoir une activité en plus dans le bus, et pour justement... Mais ça va être conjointement entre les transports, les fournisseurs de transport qui vont mettre la pression justement aux intercommunalités. Parce que ça, c'est plutôt entre les intercommunalités. La région, c'est le pilote qui est en haut, mais la région ne connaît pas tout. Donc ça, ils vont peut-être avoir un effet d'annonce comme ça, mais surtout, c'est fait entre les intercommunalités, les gens du terrain en bas, pour mettre en place ces choses-là.
Alors moi, quand je suis allée voir un petit peu aussi quels sont les risques des objets connectés, alors selon le ministère de l'Économie, le développement des objets connectés expose principalement les consommateurs à deux types de risques. L'utilisation commerciale des données personnelles, plus atteinte à la vie privée et le piratage. Voilà.
Oui, mais quand tu regardes un délinquant ou quelqu'un qui sort de prison qui est bien connecté à un bracelet, des fois on ne sait pas où il est, donc ça n'empêche pas de faire
certaines... T'es médisant quand même.
Faut dire que les gens maintenant, notamment les jeunes, pour eux c'est très facile de dévier les objets connectés. Donc ce bracelet et autres, un jour ou l'autre, pourraient être très bien déviés de son utilisation.
Quelque part, tous ces objets connectés, ça déresponsabilise les personnes. Enfin, je veux dire, un chauffeur de car, il est responsable de son car. Et quand il a fini sa tournée, il est censé vérifier s'il y a des personnes, que tout va bien, en fait. Donc, les objets connectés, ça permet aux gens aussi de se dédouaner de leurs responsabilités.
Sauf qu'avant, il y avait...
Le
chauffeur de car, son but, c'était de conduire. Exactement. Et de faire attention, parce que c'est déjà compliqué pour un chauffeur de car au niveau scolaire. Mmh. Et il y avait toujours une personne complémentaire dedans. Sauf que maintenant, la personne complémentaire a disparu.
Moi, personnellement, j'ai jamais vu que le chauffeur de car, on n'avait pas de personne complémentaire. Et j'ai pas connu ça. En revanche, je tiens quand même à souligner que concernant les transports scolaires, au niveau de la région, c'est une erreur de dire transport scolaire, parce qu'aujourd'hui, les lignes ne sont plus dédiées au transport scolaire. La problématique que nous, parents d'élèves, nous rencontrons aujourd'hui sur le terrain, c'est que, en fait, ce sont des lignes publiques utilisées par les scolaires en priorité, mais en fait, n'importe quelle personne peut emprunter ces lignes à partir du moment où il a un titre de transport. Et s'il monte dans le car avant un élève, il prend la place de l'élève. Donc aujourd'hui, nous, notre problématique au niveau des transports scolaires qu'on rencontre, c'est qu'il y a des enfants qui se retrouvent sur le bord de la route, qui ne peuvent pas aller dans leur établissement scolaire parce que les lignes de transport scolaire ne sont plus dédiées aux scolaires.
Parce que tu habites une grande ville.
Oui.
Parce que nous, on n'a pas ce souci-là, dans les villages.
Dans les villages, non.
On habite un village. Et moi, j'ai fait partie de la commission transport des Hauts-de-France. Et ça, je peux vous assurer que les lignes de transport scolaire ne sont plus dédiées au transport scolaire.
Alors, il y a des lignes de transport scolaire, exclusivement transport scolaire, et il y a des lignes, effectivement, des lignes privées. Mais disons que pour les collèges et les lycées, peut-être, Mais pour les écoles primaires, maternelles, élémentaires, ce sont des lignes de transport scolaire, strictement scolaire.
Moi, je parle qu'au niveau collège et lycée.
Voilà, oui, oui. Mais au niveau, par exemple, pour la petite qui a été oubliée dans le car, c'est des transports scolaires classiques, comme il y a pour le premier degré. Et effectivement, le chauffeur de bus scolaire, il doit gérer la conduite de son bus, et maintenant, il faut aussi qu'il surveille les gamins. Alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Il y avait un agent territorial qui était chargé de faire l'accompagnement.
Tout à fait.
Et de veiller justement à ce que les enfants ne s'endorment pas ou ne descendent pas au mauvais endroit. Mais disons que maintenant, ben, on a un agent territorial à la montée dans le bus, et puis c'est tout, quoi. Et c'est aux parents de les récupérer lorsque les enfants descendent. Et effectivement, c'est un gros souci. Et s'il y a un problème de transport scolaire et de chauffeur scolaire actuellement, c'est que ben, les personnes qui sont recrutées pour conduire les bus scolaires, ce sont souvent des retraités, c'est un travail à temps partiel qui est mal payé, et ce qui fait que ben, il n'y a pas beaucoup de candidats pour assumer les transports scolaires dans le premier degré.
Et la région, les transporteurs nous expliquaient également, je parle en tout cas pour la région du sud de l'Oise, qu'ils formaient beaucoup de conducteurs, mais que l'attractivité des salaires du 95 est telle que la formation, c'est au niveau du sud de l'Oise que elle est faite, et au final, ben, les conducteurs, ils partent exercer dans le Val d'Oise parce que c'est mieux payé. Exactement. Donc plutôt que de payer des objets connectés, peut-être qu'il vaut mieux le même billet de 100 euros, c'est toujours la même chose, et on peut pas payer deux mêmes choses.
Et ben, avant de poursuivre ce thème, nous allons passer un petit intermède musical.
Attends, faut que je tweet, il faut que ça aille vite. Va check mon Facebook si tu veux voir mon look. Moi j'ai tous les codes de toutes les modes. Je t'installe, je te snap et puis je te WhatsApp. Moi j'ai trop le swag, je suis un dieu de la drague, le roi des tombeurs, le roi de Tinder. Moi je suis connecté avec le monde entier, mais je ne sais pas parler à la fille d'à côté. Oui, moi je suis connecté avec le monde entier, mais je ne sais pas parler à la fille d'à côté. Je passe des heures sur Netflix, j'ai jamais d'horaire fixe. J'aimerais faire une série pour mieux rêver ma vie. Enfermé dans ma bulle, je vais traîner sur YouTube. J'ai une nouvelle amie qui est ma dernière appli, qui est déjà remplacée, qui est déjà dépassée, qui est déjà dans notre temps. Excuse-moi, j'ai pas le temps. Moi je suis connecté avec le monde entier, mais je ne sais pas parler à la fille d'à côté. Oui, moi je suis connecté avec le monde entier, mais je ne sais pas parler à la fille d'à côté. J'ai le cul vissé sur le canapé, c'est plus facile pour zapper et rester connecté avec le monde entier. Moi qui ne sais pas parler à la fille d'à côté, je vais rester connecté avec le monde entier. Moi qui ne sais pas parler à la fille d'à côté, je vais rester connecté en virtualité. Mais ma réalité, c'est la fille d'à côté. Je vais rester connecté avec le monde entier, mais je voudrais juste parler à la fille d'à côté.
Notre thème du jour, que penser des objets connectés? Pour cela, nous recevons Madame Contant, Marie-France, membre du Bureau fédéral des délégués départementaux de l'Éducation nationale de l'Oise, DDEN, également présidente de l'Union des DDEN de l'Oise, Madame Petit-Jean-Véronique, parent d'élèves PEPS de l'Oise, et Madame Etemami, Stéphanie, de la PEPS également. Jackie, un petit billet d'humeur.
Oui, un petit billet d'humeur qui est lié à ce sujet des objets connectés. Donc à l'école et en dehors de l'école, notamment, puisque ça fait aussi partie du quotidien après. Nous sommes rentrés dans un monde interactif et bientôt artificiel, et aussi dans l'ère des avatars bientôt, ce qui va en être. Mais avant de pouvoir y contribuer, il faut quand même maîtriser un minimum ce monde connecté. On est bien loin d'y être. Enfin, même aussi bien dans le quotidien que... Et surtout à l'école, on est à l'école encore dans les balbutiements avec le peu de systèmes et logiciels que l'école a, donc que ce soit donc le premier ou le second degré, avec l'ENT, les tableaux numériques, et le peu de ressources en matériel et en financement. Et on l'a vu surtout au niveau du confinement, bientôt. Et peut-être sur les prochains confinements, j'espère que non, mais bon. Mais on l'a vu dans les derniers confinements, ça a été quand même une source d'angoisse pour chacun, et puis une source un peu de bricolage au niveau de ce que chacun a pu faire, hein, aussi bien au niveau des profs, des parents et autres, pour arriver tant soit peu à faire quelque chose. Donc, et il y a aussi dans les points des objets connectés, la problématique, il se pose plusieurs problématiques, et surtout la problématique de la sécurité, de la possibilité de piratage, du traçage des données. Et ça, c'est une problématique qu'on met un peu de côté quand on met en avant les objets connectés de la part des industriels. Hein. C'est quand on dit oui, il y aura des données, mais on ne sait pas où et qui va se servir ces données-là. Il y a aussi un point sur le coût du numérique, le coût de ces objets connectés. Parce que ces objets connectés coûtent très cher. Et là, ça va être aussi, au niveau de l'achat, moi, ce qui me fait peur, c'est que ça va être encore un cas de problème d'égalité entre chacun. Qui va pouvoir s'acheter ces objets-là connectés par rapport à d'autres? Et là, il y a peut-être certaines questions à se poser. Et il y a aussi l'humain. Est-ce que dans ce monde, alors surtout à l'école, hein, ce qui nous pose question, est-ce que dans ce monde artificiel et des objets connectés, est-ce que bientôt nous allons avoir des enseignants artificiels? Donc là, c'est peut-être, j'espère, ce qui n'arrivera jamais, mais on ne le sait jamais. Voilà.
Ça va, c'était un petit billet bonne humeur quand même. Hein, voilà. Oui, alors je voulais dire que l'intermède musical, c'était donc connecté de Grégoire. Voilà. Donc on continue un petit peu. Je voulais revenir quand même sur le Finistère. Donc effectivement, on parlait de monter dans le bus avec des bracelets connectés. Ils sont équipés en Bluetooth. On ne l'a pas dit, hein, sans émission d'ondes, l'enfant est répertorié sans être géolocalisé par une application mobile à chaque montée ou descente du car. Et c'est l'application Carascol qui va permettre au chauffeur, avec son smartphone, de vérifier en temps réel le nombre exact d'enfants à bord. Voilà, je voulais rattraper ça. Alors après, dans les objets connectés, nous allons partir un petit peu en Chine. Alors c'est une nouvelle façon, je dirais, de surveiller les devoirs des élèves et collégiens grâce à un stylo intelligent équipé d'une caméra. Ainsi, les enseignants pourront vérifier si les devoirs sont faits, même pendant les vacances d'été, et si les jeunes travaillent, et donc les professeurs vont même voir ce que les élèves pourront écrire. En plus, grâce à la caméra, on voit en temps réel les erreurs qui seront calculées directement via l'intelligence artificielle. Effectivement, on n'arrête pas le progrès. Luc, est-ce que tu peux... Merci, Luc.
Alors, rentrée scolaire en France, mais aussi en Chine. Et ce qui a retenu notre attention, c'est que 300 millions d'élèves préparent leur retour en classe version Big Brother.
Oui, puisque dans leur cartable, ces enfants chinois trouveront désormais un stylo connecté, distribué par les écoles. Fini les tricheries et même les gribouillages dans le coin du cahier, ce stylo filme la prise de notes des élèves. Une méthode de surveillance déroutante que nous explique notre correspondant Sébastien Lebelzik.
Ces stylos espions seront dans les trousses des écoliers chinois dès la rentrée. Il s'agit d'un stylo connecté équipé d'une mini-caméra qui filme les prises de notes des élèves et transmet les images en temps réel à l'enseignant. Celui-ci peut ainsi suivre le travail de chacun, mais aussi corriger les devoirs, car ce petit stylo que l'on dit intelligent télécharge automatiquement les pages de notes vers un serveur informatique que le professeur peut ensuite consulter et corriger. Ce stylo nouvelle génération fait partie d'un vaste programme, sorte de cartable 2.0 appelé Plan National d'Informatisation du Système Éducatif. Et le moins que l'on puisse dire, c'est c'est que ce plan mobilise tous les outils de surveillance dont dispose la Chine, et ils sont nombreux. Ainsi, la reconnaissance faciale qui permet de vérifier l'identité de chaque élève à l'entrée des établissements, des casques que l'on porte parfois pendant les cours et qui mesurent l'activité cérébrale des enfants, et des caméras dans les salles de classe capables d'analyser les visages pour savoir si un élève est actif ou si au contraire il a une folle envie de dormir. Une panoplie qui ne fait pas l'unanimité chez les enfants comme chez les parents, où l'on s'inquiète de voir les salles de classe ressembler à des tours de contrôle. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe.
Alors, c'était sur Europe 1 le 23 août 2022. Moi, je me retourne vers les invités. Que pensez-vous de ce stylo connecté? Est-il vraiment utile? Cette surveillance de l'élève à tout prix peut-elle nuire à sa réussite scolaire? Et un élève sera-t-il mis dans des cases et ne pas accéder à des études supérieures, par exemple? Est-ce que ça peut venir en France, ça? Qu'est-ce que vous en pensez?
J'espère que non, que ça ne vienne. Parce que la Chine, ce n'est quand même pas un modèle en matière de liberté et d'éducation. Donc, c'est plutôt un modèle de formatage de la pensée unique. Donc, je pense que, et j'espère en tout cas, que cette idée, plus que c'est une dérive très, très dangereuse, ne sera jamais imposée en France. Ceci dit, ça peut... Il y a des objets connectés qui peuvent être intéressants. Par exemple... mais au niveau, par exemple, de la prise de notes, lorsque vous avez un objet connecté qui vous permet d'écrire au fur et à mesure ce que vous dites, ça peut être intéressant. Un objet connecté, ça peut aider un enfant qui est handicapé, polyhandicapé, effectivement, qui a du mal à travailler seul. Dans certains établissements qui accueillent des enfants handicapés, les objets connectés peuvent être utiles, mais le stylo connecté pour surveiller le travail des gamins, c'est vraiment une honte d'avoir pensé à ça, quoi.
Non, ça fait froid dans le dos, c'est liberticide au possible. Et effectivement, j'ose espérer que ça n'arrivera pas dans le pays de la Révolution française, n'est-ce pas? Mais en l'occurrence, et puis les enfants, enfin, on a l'impression d'avoir affaire à du bétail. Enfin, on les compte, on les décompte, on leur met un bracelet comme on mettrait un collier à un chien. Enfin, moi, c'est cette image quand je vois connexion, c'est ça qui me vient à l'idée. Maintenant, effectivement. C'est comme tout, c'est l'usage qu'on en fait. Je pense que on devrait développer les objets connectés, ou en tout cas des objets aidants pour les enfants dyslexiques. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Pour le reste, les apprentissages, c'est avant tout de la transmission et donc de l'humain.
Mais en plus, il ne parle pas du nombre de suicides des élèves qui ont eu lieu, puisque en plus de ça, si l'élève ne réussit pas en Chine, c'est la famille entière qui est visée. Donc pour l'enfant, c'est quelque chose de terrible de voir que c'est sa famille qui est atteinte, pas à cause de lui, quoi.
Et en plus, les parents paient des sommes faramineuses pour que les enfants puissent suivre. Donc c'est des cours particuliers, et quand l'enfant n'y arrive pas... pour lui, c'est la honte de la famille. Donc, c'est très complexe, hein, l'éducation au niveau de la Chine.
Mais il y a aussi, comme le soulignait Jackie, un manque de moyens financiers qui n'est plus dédié à l'humain, et on le remplace par quelque chose de moins coûteux, entre guillemets.
Par l'intelligence artificielle.
Peut-être, mais ça ne remplace pas l'humain. Et on sait très bien, on le voit à tous les étages. Maintenant, on peut passer une journée, on peut aller faire ses courses sans faire à personne. On peut payer à la caisse sans voir personne. On va au supermarché, on va prendre son essence. On prend un rendez-vous. Ce matin, exemple, j'ai voulu joindre ma banquière. Impossible, j'ai un message qui me dit à qui voulez-vous parler, et on peut passer une journée, voire une semaine, sans voir personne. C'est le monde, quand même, malheureusement, dans lequel on vit de plus en plus.
Et pourquoi
tout de suite, c'est vrai, imposer ça à nos enfants qui le vivront de toute manière un jour ou l'autre? Mais attendons un peu.
On peut espérer qu'ils vont y échapper quand même.
Oui, moi j'espère aussi. J'espère qu'on. Et on va tout faire pour. Hein.
L'enfance et l'adolescence, c'est quand même aussi la période où on est censé laisser libre cours à toute sa créativité. Là, on impose des choses aux enfants et il est, où est l'espace de créativité ?
Mais c'est pareil, hein. Moi, je vois les réseaux sociaux, je vois les jeunes sont très contents, oui, c'est un réseau, ce sont des réseaux sociaux. Non, mais enlevons le mot sociaux, parce que ça n'a rien à voir, hein. Il n'y a plus du tout de contact humain. C'est juste, ben j'aime, on fait, voilà, ou on parle comme ça, mais on ne se voit plus, en fin de compte. Et c'est un monde virtuel, voilà. Le mot est lancé. Hein.
C'est au début de Facebook, c'est ce monsieur qui trouve ce jeune homme-là très fier de dire oh, « bah, moi j'ai 500 followers là, sur Facebook oui. ». Et puis il lance un message « alors je déménage samedi prochain, je vous attends tous ». Et au final, il se retrouve à deux.
Tout à fait. Moi, je voulais avoir un petit peu votre avis. En fin de compte, les relations de confiance qu'il y a souvent entre professeurs et élèves, par ce stylo connecté, il n'y a plus tout de relations, de confiance. Comment un enfant peut-il gérer ses émotions, en parler à son professeur quand il a besoin d'aide ? Il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et puis déjà, même aujourd'hui, il me semble avoir entendu le président de la République dire qu'il y allait avoir, qu'il avait pour projet la refondation de la santé et de l'éducation nationale. En l'occurrence, le métier effectivement de professeur, même à l'heure actuelle, il est très compliqué pour les professeurs parce qu'ils ont moins de temps à accorder à leurs élèves parce que classe trop surchargée, parce que
manque de moyens.
Il faut absolument faire dérouler le programme dans le temps imparti. Et oui, mais avant tout, c'est de la relation humaine, la relation enseignant-élève.
Moi, je voulais revenir un petit peu où se situe un peu l'utilisation de ces produits intelligents. Ça, c'est donc Jeanne Durieux de Ouest-France qui a écrit le 12 août 2022 là-dessus. Et en fin de compte, elle se demandait si ces initiatives ont notamment écho à la mise en place de puces électroniques intégrées dans le col de chemise des élèves d'une école de la ville de Zhuhai dans le sud-est de la Chine en septembre 2021. Et ce système surveillait les faits et gestes des enfants tout en leur évitant d'avoir à scanner leur carte ou leur visage en accédant à la classe. Donc en plus donc du stylo connecté, voilà, maintenant on met des petites puces dans le col des enfants. Donc on voit bien que l'intelligence artificielle, petit à petit, c'est plus ou moins de la surveillance. Parle dans le micro.
C'est le système asiatique, de toute façon. Donc on ne pourra jamais nous rivaliser avec le système asiatique de toutes sortes, au point de vue, que ce soit au point de vue informatique et autres, ça sera impossible.
C'est un outil de contrôle.
Oui, et puis de toute façon, ils ont une méthode d'éducation qui fait qu'en fin de compte, il n'y a plus du tout aucun échange, c'est des échanges avec des profs virtuels. Hein.
Oui, mais enfin, une erreur qui est corrigée immédiatement dans une classe, c'est un peu idiot, parce qu'une erreur d'un élève peut profiter à toute la classe. La correction de cette erreur profite à tout le monde. Ça paraît maintenant, pour moi, ça paraît évident. Mais si c'est corrigé immédiatement et directement, je ne vois pas l'intérêt.
Oui, puis on a surtout oublié le fait que dire... Ben, oui, l'école, c'est l'endroit où on a le droit de faire des erreurs. C'est le lieu où il faut faire des erreurs pour pouvoir grandir, s'épanouir, parce que voilà, c'est avec ces erreurs qu'on apprend. Le fait de stigmatiser l'erreur, c'est pas une pédagogie.
Tout à fait. Et en outre, l'intelligence artificielle dont est doté ce fameux stylo va permettre de calculer automatiquement le taux d'erreur de chaque question. Si celui-ci est élevé, l'instrument génère une leçon pour expliquer la faute qui peut être envoyée aux parents d'élèves via leur téléphone mobile. Donc là, on voit le professeur est complètement mis de côté. Hein. Alors moi, je voulais savoir un petit peu... On parle souvent du manque d'autonomie des jeunes. Est-ce que ces objets connectés, ces outils numériques, seront-ils la solution ou pas ?
Ce n'est pas un outil qui permet la socialisation, en tout cas. Parce que, franchement, les enfants, effectivement, les ados, actuellement, avec Facebook, mais enfin, Facebook, il ne faut pas se leurrer. Hein, c'est un... Les jeunes vont nous dire que c'est un outil de vieux, hein, Facebook. Oui, oui. Hein, maintenant, oui. C'est complètement dépassé.
C'est has-been.
Mais, les...
On est has-been, alors.
Mais les réseaux sociaux, quand même, ils ont... Et puis, tout ce qui est connecté, ça... le but, c'est d'imposer quand même une certaine pensée qui va dans un sens
unique,
la liberté économique, le libéralisme économique, etc. Parce que l'éducation nationale ne répond pas forcément aux besoins, en tout cas en France, ne répond pas forcément aux besoins des enfants, parce qu'on lui confie plutôt, pour certains dirigeants, l'école, ça doit former des travailleurs, hein. Ça ne doit pas former des gens qui les incitent à réfléchir, à penser librement, on doit les formater. Et ça, en tant que DDEN, moi je ne le supporte pas. Bon, j'ai été longtemps enseignante, mais en fait c'était une façon de faire que je ne supporte pas. Moi, ce qui me pose problème aussi, c'est que pendant des années, en conseil d'administration dans mon collège, et maintenant dans les conseils d'école, chaque année, on vote le règlement intérieur de l'élève. Et pendant des années, on a bataillé pour interdire le téléphone portable, interdire tout ce qui était connecté, parce qu'effectivement, on a eu des incidents avec des gamins qui s'amusaient à enregistrer le professeur, à filmer le professeur à son insu. Et puis maintenant, on s'aperçoit, et j'en discutais hier après-midi avec des collègues de lycée professionnel, qui me disaient, eh bien, nous, on a réussi à établir des bonnes relations avec nos élèves, mais on travaille en permanence avec des objets connectés. Dans les lycées professionnels, les élèves ont du matériel informatique, ils utilisent des tablettes, ils ont le droit d'utiliser leur téléphone, on les apprend à aller sur des moteurs de recherche, on leur enseigne des techniques de recherche d'emploi, des techniques d'orientation, et ça passe par des objets connectés. Alors, quand c'est bien cadré avec des enseignants, ça peut être tout à fait positif. Mais ça peut être, et comme je disais tout à l'heure, les objets connectés pour les enfants en difficulté, ça peut être positif. Mais il faut un cadre. Et les collègues de lycée professionnel avec lesquels je parlais hier après-midi me disaient, mais tout ça, c'est bien cadré dans le cadre de procédure éducation nationale qui surveille ça de très près. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une surveillance, qui ne soit pas une surveillance d'État, hein, comme en Chine par exemple, mais dès l'instant que les enseignants sont partie prenante dans l'utilisation des objets connectés, ça a tout à fait une autre façon de voir. Et dans le cadre des lycées professionnels, ça peut être positif. Mais c'est cadré.
Oui, il vaut mieux que ce soit cadré de toute façon. Mais il faut dire que cette initiative des stylos connectés divise quand même l'opinion publique en Chine. Certains médias commencent à alerter sur cette nouvelle forme de surveillance. Bon, c'est une affaire à suivre. Qui est-ce qui voulait... Tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est bien ce que
ça semblait. Comment dire, mais je regardais un peu tous les endroits. Et c'est vrai que l'éducation nationale, c'est surtout sur les objets connectés, les lycées professionnels, tout ce qui est formation professionnelle, sont en avance par rapport à tout ce qui est connecté, objets connectés, par rapport aux autres filières. Notamment le premier et le second degré. Enfin, surtout le premier degré, qui lui est... Et l'éducation nationale... pour elle, la dénomination, c'est pas ils ne mettent pas la dénomination objet connecté. Ils mettent EMI, éducation, médias et informatique.
Oui.
Donc il y a une grosse différence entre les objets connectés et l'éducation. Et donc c'est surtout dans le premier degré, où là c'est malheureusement les parents pauvres, et un petit peu dans le second degré, surtout sur les collèges. Après les lycées, bon, eux sont... Voilà. Mais il y a vraiment un écart entre les différents collèges et autres, et surtout le professionnel, ils ont mis un gros accent sur les connectés.
Alors, je voulais revenir moi sur l'un des précédents pédagogues rondeaux qu'on avait effectué. On avait indiqué quand même que les milliardaires protégeaient les enfants, quoi, leurs enfants, des objets connectés. Ils interdisent les écrans à leurs enfants, smartphones, pas avant 14 ans, ou alors ils les mettent dans des écoles non connectées. Alors moi, effectivement, j'ai lu, bon, c'est un article qui date de 4 ans, peut-être que Bill Gates, depuis, a changé d'avis. Voilà, alors lui, c'est le fondateur de Microsoft, auteur d'innovations qui ont fait de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Eh bien, lui, il a limité le temps que ses enfants pouvaient passer sur leurs écrans. Et lui dit, il faut toujours chercher dans quel cas les écrans peuvent être utilisés d'une bonne manière, les devoirs ou rester en contact avec ses amis, et dans quel cas où celui-ci devient excessif. Nous n'avons pas de téléphone à table. Lorsque nous prenons nos repas, nous n'avons pas donné de portable à nos enfants avant l'âge de 14 ans. Même quand ils se plaignaient que des camarades les avaient. Steve Jobs, lui, c'est exactement la même chose. Il ne donne pas d'iPad à ses enfants. Il y a Shamat Palihapitiya, ancien président chargé de la croissance de l'audience de Facebook, qui a interdit à ses enfants d'utiliser le réseau social. Il a tiré un trait dessus et a utilisé même le mot « mais c'est une merde ». Donc on voit bien que petit à petit, tous ces gens riches, ils préfèrent peut-être aussi ne pas mettre les enfants dans une école connectée. C'est un petit peu bizarre, hein. Surtout dans la Silicon Valley, hein, au sud de San Francisco. Francisco, je vais y arriver, la Waldorf School of the Peninsula, une école à la pédagogie alternative, se targue de délivrer un enseignement sans aucun outil technologique, pas d'écran en vue, seulement des livres, du papier et des crayons. Et de nombreux enfants d'employés d'eBay, Google, Apple et Yahoo y sont scolarisés, selon le New York Times. Alors on voit bien que là, c'est quand même dingue que des personnes qui ont créé tous ces outils, en fin de compte, connectés. Ils se sont enrichis dessus, interdisent leurs enfants, préfèrent les mettre dans des écoles non connectées. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en penser, nous, en tant que parents? Quelqu'un veut réagir là-dessus?
C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà.
Ils savent très bien, c'est que justement avec ces objets connectés, puisque c'est eux qui les ont créés, les mis en point, ils savent très bien qu'on a une dépendance après à ces objets-là. Donc ils veulent très bien que leurs enfants et autres n'aient pas cette dépendance.
Exactement, ils ont certainement déjà des études de effets secondaires, entre guillemets, que nous, on n'a pas, que le petit public lambda comme nous, on n'a pas accès. Et ils connaissent bien les effets dévastateurs beaucoup mieux que nous. Et le fait qu'ils mettent leurs enfants devrait nous alerter.
Oui, tout à fait. Je reprends le micro. Il y a un psychologue, Richard Fred, qui a publié un ouvrage sur les dangers pour les enfants d'une trop longue exposition aux écrans et sur la manière de les reconnecter au monde réel. Parce que c'est que du virtuel et c'est vrai, il y a certains enfants, on les perd complètement. Ils sont complètement déconnectés du monde. Et donc, c'est intéressant. L'APEP, vous avez déjà eu ce genre de... fait une conférence là-dessus ou pas du tout pour essayer d'alerter un peu les parents?
Tu te rappelles qu'on avait fait c'était à Creil, on avait fait une conférence justement là-dessus sur tout ce qui était addiction aux objets, tout ce qui était. Donc il y a déjà quelques années et ça se vérifie encore plus.
Et donc, vous n'avez jamais fait de conférence. Est-ce que la PEP Paris y pense ou pas du tout?
Dans le projet, on a des programmes de conférences au niveau fédéral. Bon, ce qui est sûr, c'est que je ne sais plus si il y a, on a, je l'ai plus en tête le programme parce qu'il y en a beaucoup. On a eu des conférences là sur la qualité de l'air. On a sur le harcèlement, sur ce genre de thématiques. On a au niveau fédéral un groupe santé prévention qui justement crée des conférences à thématiques diverses et variées. Donc, j'imagine, je vous dis, je ne l'ai plus en tête, mais j'imagine que ça sera dans le thème. Maintenant, effectivement, moi, j'écoutais une émission de radio où, en fait, une pédopsychiatre donnait l'alerte sur l'enfermement des enfants dans les écrans. Ils sont vraiment enfermés dans les écrans, avec des conséquences sur leur sommeil, sur la créativité, sur le développement psychique et cognitif.
Il y a trouble de l'attention et retard de langage. Addiction. Voilà.
C'est ça, c'est vrai, c'est vraiment une addiction. Et donc, qui mettait en garde sur le fait qu'il ne fallait pas mettre, vous disiez, le primaire est en retard, mais en fait, il ne faut pas mettre les enfants trop tôt devant des écrans.
Il faut qu'il y ait une certaine maturité intellectuelle pour pouvoir y accéder.
Mais déjà en février 2016, il y avait les professionnels de la santé de la petite enfance qui avaient publié une tribune dans Le Monde dénonçant les graves effets d'une exposition massive et précoce des bébés et des jeunes enfants sur tout type d'écran. Et donc il y a beaucoup d'enfants effectivement qui font des crises. On en avait parlé dans une émission à 3 ans. Et quand on leur parle, ils ne nous regardent pas, il n'y a rien à faire. Ils ne communiquent pas, ne parlent pas, ils ne cherchent pas à être en relation avec les autres. Donc comme tu disais, effectivement, ils se renferment sur eux-mêmes. Hein. Ils sont très agités ou très passifs. Et ça, c'est très, très inquiétant.
Oui, mais ça, c'est lié au fait qu'il n'y a pas eu le développement de la notion d'attachement entre le parent et l'enfant. Parce que le premier regard, enfin les regards entre parents et enfants, c'est primordial dans la construction cognitive de l'enfant.
Donc, on nous fait signe qu'il nous reste plus que 3 minutes. Alors, on va passer très rapidement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces objets connectés? Qu'est-ce que vous avez à dire, effectivement?
Moi, ce que je vais dire, c'est que les objets connectés peuvent avoir des incidences quand même tout à fait négatives. Que le présentiel, le contact, les contacts humains doivent rester la priorité. Et que, disons qu'on peut se poser la question de savoir quels sont les objectifs réels des personnes qui vantent les objets connectés, qui vantent l'intérêt des objets connectés. Moi, je suis très, très inquiète par ce monde qui est en train de se préparer pour nos jeunes, pour la génération future.
Merci.
Alors, oui, je rejoins Madame Contant, et en l'occurrence, l'objet connecté, c'est comme tout, c'est pourquoi faire, quel est son véritable objectif, l'objectif affiché et l'objectif caché. Et c'est comme les téléphones portables. Pour appeler les pompiers ou le SAMU, c'est très utile. Pour faire du dénigrement sur les réseaux sociaux, Donc c'est tout dépend de l'usage qu'on en fait.
Stéphanie ?
Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de tout ça, de tous ces objets pour vivre simplement au final.
Et moi, ce qui m'inquiète, tout à fait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'arrivée de Métaverse.
Notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Marie-France, Véronique et Stéphanie d'avoir participé à cette émission qui sera diffusée pendant le mois d'octobre, le vendredi 7 à 19h, le lundi 10 à 16h30, le samedi 22 à 17h et le mercredi 26 à 2h du matin. Le thème du mois prochain sera « Les oubliés de l'éducation nationale ». Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6-valois-6-mulchien.fr. Merci à Luc, à la technique. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie. C'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un brand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de...